Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors ce soir, Céline, de quoi va-t-on parler ?
Alors justement, on va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé et dont on parle un peu moins aujourd'hui. Et pourtant, on ne peut pas dire que la situation se soit améliorée. Tiers paysage est un documentaire réalisé il y a un peu plus d'un an sur et avec une famille rom de la région de Montpellier. Il sera diffusé mardi 24 janvier au cinéma L'Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise. Saint-Ouen-l'Aumône qui fait partie de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise où un campement rom est menacé d'expulsion.
Donc, nous avons en plateau les deux réalisatrices de ce documentaire qui sont donc Yasmine Bouaga, bonsoir, et Naïs Van Laer. Et
bonsoir.
Par après, nous appellerons aussi Montpellier pour voir la situation avec les membres du collectif de lutte contre l'expulsion de ces camps de Roms. Et puis, nous aurons au téléphone, juste après cette pause musicale pour être dans l'actualité du moment, nous aurons Jean-Pierre Dacheux qui fait partie du collectif de l'agglomération de Cergy-Pontoise de lutte contre les expulsions de camps de Roms. Mais avant ça, histoire de se mettre dans l'ambiance, un peu de turbo folk.
Mo țigane, mo, ce mi-a furat inima, mo, romale, mo. Și ei nu vor să-mi o dea, mo, romale, mo. Hai, ca și care e roman, ca și care e țiganca. Hai, că nu mă las de ea, să ia foc și șatra. Hai, că nu mă las de ea, să-i apuc și șatra.
Alors vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutiez un peu de turbo folk qui est écouté dans ce documentaire dont nous avons les réalisatrices en plateau, Tiers Paysage. Et c'est du turbo folk donc qu'on entend dans une sorte de bidonville, dans une sorte de caravane qui est autour de Montpellier, dans un lieu qui est un peu au milieu de nulle part. Et alors nous avons en plateau, nous avons en micro normalement Jean-Pierre Dacheux, bonsoir.
Bonsoir.
Et alors vous faites partie du collectif de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Bon, pas de l'agglomération seulement, sur le Val-d'Oise essentiellement, mais depuis plusieurs années nous avons constitué un collectif de soutien aux familles roms de Roumanie et maintenant de Bulgarie, puisque nous voyons arriver des ressortissants de l'Union européenne bulgare et roms qui s'installent à présent aussi dans notre pays.
Et alors, quelle est la situation ? Parce que depuis quand même août 2010, on sait qu'il y a quand même une politique pour démanteler tous ces camps.
Oui.
Est-ce qu'il en est de même dans le Val-d'Oise ? Est-ce qu'il y a de la solidarité qui s'est organisée ?
Bah écoutez, dans le Val-d'Oise, la situation, elle est d'autant plus mouvante qu'elle est déjà très mouvante dans Seine-Saint-Denis et qu'il y a une porosité entre les deux départements. Et il y a eu un énorme campement sur Sarcelles qui a été démantelé il y a quelques mois, où il y avait 700 à 800 personnes. Là, sur Saint-Ouen-l'Aumône, en plusieurs lieux de la commune, se sont installés plusieurs campements, des campements de Roms roumains et de Roms bulgares, les Roms roumains étant les plus anciens et souvent installés dans l'agglomération ou dans le Val d'Oise et les Yvelines depuis des années et des années. On a même des exemples de familles qui sont là depuis les années 1990. Alors que les Bulgares sont plus récemment arrivés. Et alors la situation sur Saint-Ouen-l'Aumône, elle est nouvelle parce que sur ces trois ou quatre points forts, il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont installées. Alors dans un premier temps, la mairie, objectivement dépassée, et on ne peut pas le lui reprocher, parce que n'importe quelle mairie aurait été dans la même situation, demandé l'expulsion et le tribunal de grande instance de Pontoise lui a d'abord donné raison, mais en donnant 6 mois de délai aux intéressés pour partir. Et la mairie a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, qui, elle, a contredit l'avis du tribunal de grande instance de Pontoise, et donc nous attendons d'un jour sur l'autre, à présent, la mise en œuvre de cette décision de justice, et qui pourrait donc au cours du mois de janvier aboutir au départ contraint de plusieurs centaines de personnes peut-être. Alors tous les Roms qui sont sur Saint-Ouen-l'Aumône ne partiront pas, en tout cas dans cette période-là, mais pour l'un des campements, celui qui est le plus près d'une gare, s'appelle la gare de Liesse, et il est sûr qu'ils seront dans un premier temps incités à quitter les lieux, et dans un deuxième temps, s'ils ne partaient pas, expulsés, non pas de France, mais expulsés du terrain. C'est important de faire la distinction entre
les deux. Ils sont juste déplacés, finalement.
Ah, ils seront de facto déplacés, c'est-à-dire que c'est toujours la même situation en France actuellement. On déplace les problèmes. On ne sait pas le résoudre. Par conséquent, on se contente, s'il y a du mécontentement chez les habitants, ou même si on veut appliquer la politique du gouvernement, on se contente de pousser les gens ailleurs, mais sans solution de remplacement.
Est-ce qu'on peut faire des choses pour vous contacter, pour vous aider avec votre collectif ?
Si, bien sûr. Notre association, qui n'en est pas une, c'est un collectif, comme vous le dites bien. Nous n'avons pas voulu nous constituer en association. Peut-être un jour sera nécessaire, mais pour l'instant, on ne le veut pas. On est joignable, pas commodément, parce que nous n'avons pas ouvert nos coordonnées au grand public. C'est plutôt par connaissance entre nous que ça passe, parce qu'on veut avoir une capacité d'action impromptue, rapide, si c'est nécessaire. Et en plus, notre travail essentiel, il n'est pas simplement de s'opposer aux expulsions, il est aussi, peut-être mieux, d'accompagnement au quotidien des familles dans les problèmes matériels qu'ils rencontrent, que ce soit pour les questions d'approvisionnement d'eau, de vêtements, de soins, de transport à l'hôpital, toutes ces choses qui sont du quotidien, mais qui sont tout à fait mêlées à la vie quotidienne.
En tout cas, qui nous paraissent essentiels. D'ailleurs, nous en parlerons plus longuement dans notre émission. Alors, peut-être pour juste vous rappeler que, en tout cas, dans le Val d'Oise, il y a une diffusion du documentaire des réalisatrices que nous avons en plateau. Donc, le documentaire, c'est Tiers Paysages. Et alors, la diffusion aura lieu le 24 janvier prochain au cinéma L'Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône. Alors, peut-être que vous pourrez croiser des personnes.
Nous en réjouissons, mais nous le savions par les contacts que nous avions avec Utopia, où nous avions déjà fait présentation il y a des mois et des mois de la thématique Rome. Et là, on va y revenir et j'ai l'intention, moi, d'y intervenir dans la discussion après film.
En tout cas, merci beaucoup. Et alors, d'ici là, nous, on suit le sujet. Et avant de retrouver les réalisatrices en plateau, un petit extrait du début de ce documentaire. Donc, c'est le documentaire Tiers Paysage.
J'étais à la Manche jusqu'à 1h, 2h, et après, je suis revenue. J'ai fait 4 euros, 3 euros par jour. Les gens ne le donnent pas parce qu'ils se disent aller à l'école. Moi, je dis qu'on me dit va à l'école, je dis que j'ai pas les papiers. Mais il y avait une femme, ça, il y avait une semaine. La police est venue. Mais après, elle m'a dit si je dois encore une fois par terre pour faire la manche, je te ramène à présent jusqu'à 18 ans.
Alors Yasmine et Naïs, donc dans Tiers Paysage, vous donnez la parole à une famille rome qui habite dans un bidonville à Montpellier et qui se raconte, qui parle de son quotidien, de son histoire et de ses envies aussi. Donc recyclage de ferraille, mendicité, mariage, scolarité, accès aux soins, aller-retour en Roumanie, tous ces aspects apparaissent dans votre film. Vous donnez surtout la parole à quatre femmes, Utsa, Zina, Veta et Michela. Mais avant de revenir sur cet aspect-là, moi j'avais une question sur le titre du film que vous avez choisi, Tiers Paysage. Je crois que ça renvoie à quelque chose de très précis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, Tiers Paysage renvoie à un ouvrage de Gilles Clément qui s'appelle Le Manifeste du Tiers Paysage. Donc Gilles Clément est un paysagiste qui est aussi d'une certaine manière philosophe. Et donc il y a une citation qui vient à la toute fin du film pour éclairer le titre, qui est « Tiers paysage renvoie à tiers états ». Pardon. « Tiers paysage renvoie à tiers états et non à tiers monde ». Espace n'exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir. Je suis désolée, j'avais pas préparé, donc d'un coup j'ai eu un petit peu de mal à le ressortir comme ça. Donc en fait, pour nous, ce qui était... Le film se situe aux marges de la ville, dans la périphérie de Montpellier. En Roumanie, ils sont également aux marges de leur petit village en Transylvanie. Voilà, c'était... Yasmine a assez bien exprimé le fait que pour elle, par exemple, le tiers paysage, en tout cas, c'est cet espace qui est très mouvant, qui est très difficile à appréhender, qui est toujours un petit peu reculé ou en tout cas loin des de l'assignation que les institutions peuvent amener dans un espace et une revendication de liberté. Ouais.
Oui, je crois que ce qui nous a intéressé dans ce concept de tiers paysage, c'était que ça renvoyait au lieu de la friche. Et c'est vrai que c'est là où ils habitent, en fait. Ils habitent dans des friches qui sont à la lisière de la ville, qui sont des lieux... C'est pas la campagne, et c'est plus vraiment la ville. Et c'est des lieux que la ville veut annexer. Et on voit dans le film la ville qui progresse vers ses marges, vers ses friches. Or, Gilles Clément... C'est quelqu'un qui a insisté sur l'importance de ces friches et de leur richesse en disant que c'était pas uniquement des endroits abandonnés, mais c'était des endroits de vie, d'une grande richesse et d'une grande liberté. Et ça nous semblait intéressant de faire ressortir aussi cet aspect en parlant des Roms qui sont certes dans des bidonvilles, mais qui sont aussi dans des marges qui ont leur beauté et qui ont leur intérêt.
Et comment vous êtes arrivé à... Parce que c'est vraiment... cette famille, parce que vous suivez une famille, vit dans une caravane au milieu de chantier. Comment vous êtes arrivé à la rencontrer et à faire en sorte que ces femmes vous fassent confiance?
En fait, c'est grâce à mon père, qui est également dans le film, qui est ferrailleur. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire de la ferraille parfois avec lui. Et ça faisait longtemps, en fait, que j'avais envie de faire un film avec des Roms. Et malheureusement, l'occasion s'était jamais vraiment présentée. J'avais envie de faire un film avec eux parce que j'avais été très touchée en 2007, notamment par les incidents qui étaient survenus en Italie, d'ailleurs qui continuent, hein, mais à ce moment-là, il y avait une actualité assez forte et bon, ça m'avait touchée personnellement. Et puis, donc en 2008, mon père les a rencontrés, enfin un petit peu avant, et m'a proposé de venir les voir tout simplement, de venir rencontrer cette famille. Et puis petit à petit, le fil s'est tissé et j'ai proposé à Yasmine très rapidement qu'on y aille ensemble avec du matériel d'enregistrement. Et c'est un film qui s'est fait vraiment au long cours.
C'est-à-dire En fait, justement, puisqu'on va un peu revenir peut-être sur l'histoire, vous avez commencé en 2008-2009, c'est ça à peu près ?
Oui, c'est ça, il me semble.
2009, ouais.
2009, ouais.
Et donc vous avez suivi cette famille pendant près d'un an ?
En fait, le tournage a duré quasiment un an et demi, en étant ponctué de moments de tournage pendant une semaine, 10 jours. Et puis ensuite, moi j'avais un job sur Paris et Yasmine aussi, donc on revenait, c'était des allers-retours comme ça constants. Mais c'est aussi une histoire d'amitié, en fait. C'est une manière de créer du lien de manière sincère. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de créer une petite bulle comme ça avec ces trois générations de femmes.
Et la famille a accepté la présence de la caméra très naturellement, en fait. C'est-à-dire que les relations étaient telles qu'au début, c'était un peu comme si on prenait des photos de famille, des photos de moments privilégiés. Et petit à petit, s'est installée aussi une confiance qui a fait que elles ont pu parler, on a pu leur donner la parole aussi à travers ce film. Et grâce à cette intimité qu'on avait eue avec les femmes, alors qu'au départ, on était plutôt parti sur un sujet avec les hommes autour de la ferraille, et on n'avait pas cette même qualité de relation. Et c'est vraiment le tournage du film, ça a été vraiment l'histoire de cette relation qui a été nouée en particulier avec ces femmes.
Mais du coup, vous êtes arrivé avec la caméra d'emblée ou en fait, vous avez d'abord noué des liens vraiment avec la famille et puis après, vous leur avez exposé votre projet ? Enfin, comment ça s'est passé exactement ?
Non, la toute première fois que je les ai rencontrés, je ne suis pas sûre que j'avais une caméra. Aussi, en fait, j'avais déjà une caméra, ouais. Mais bon, c'était une petite caméra comme ça, un peu plus familiale, effectivement. Et puis la deuxième fois, on est revenu. Bon, on n'avait pas du matos de fou non plus, hein. Mais ça se voyait que c'était une caméra un peu plus... semi-professionnelle, quoi. Mais moi, j'ai commencé par filmer les enfants. Et puis, oui, c'est vraiment ce qu'a dit Yasmine, hein. Ils ont accepté complètement la caméra dès le début. Il n'y avait pas de problème.
Et dès le début, vous leur aviez dit que vous vouliez faire un documentaire avec eux, un film documentaire sur leur quotidien ou...
Oui, en fait, c'est assez... En fait, si vous voulez, au bout d'un moment, je gravais des séquences sur DVD pour pouvoir les amener. Au bout de 6 mois de tournage à peu près, je les amenais, on les regardait dans la caravane sur une télé pour que ce soit bien clair et conscientisé pour tout le monde que c'était un film qui était en train de se faire et que éventuellement un jour ça passerait peut-être même à la télé. Mais après, c'était pas évident non plus parce que pour personne de se voir en train de faire la manche, ce n'est pas une fierté, donc c'est pas évident. Mais petit à petit, le travail s'est fait. Et d'ailleurs, Yasmine parlait tout à l'heure d'un rapport un peu familial. Et quand on leur a montré le film à la fin du montage, donc au bout de 2 ans à peu près, c'était un beau moment parce qu'en fait, c'était effectivement les enfants avaient grandi. Il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là aussi, d'une intimité familiale, quoi.
Vous étiez un peu une sorte de révélateur sur leur quotidien et sur leur vie. Et alors, dans ce documentaire, vous suivez ces femmes. Et alors, vous les suivez partout, en fait. Et vous faites, par exemple, tout le descriptif de la vie de ces femmes, avec en particulier la Manche, les conditions de vie difficiles. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle est cette vie dans cette famille ?
Alors, on a essayé de montrer leur quotidien, de vraiment être en immersion dedans. Donc, on arrivait le matin assez tôt. Parfois, on prenait le café avec eux le matin. Et donc, on partait avec les femmes sur le chemin du centre-ville. Et les femmes prennent ça comme un travail, en fait, avec des horaires. Donc, elles y vont le matin assez tôt. Elles reviennent vers 13h, souvent avec les courses. Et puis après, on prépare le déjeuner. Et donc, on a passé des journées avec elles. Alors, on restait pas tout le temps quand elles faisaient la manche, hein, parce que c'est gênant. Donc, elles ont accepté qu'on les filme, mais pas... On a essayé de rester discrètes en même temps. Et on a aussi voulu partager des moments voilà, des moments de, difficiles, mais des moments de joie aussi. On voit dans le film quand ils dansent, quand ils mettent de la musique en rentrant à la maison, etc. C'est, on a essayé de pas avoir une vision misérabiliste de leur existence.
Ouais, non, ça c'était vraiment le point de base aussi du film. C'était tout simplement de créer un rapport d'humain à humain. Qui était donné par le fait que, comme mon père était un ami à eux, bah, tout de suite on était en confiance. Et de proposer à un spectateur lambda de pouvoir s'identifier à une jeune Rome.
Oui, c'est ça
comme
qui
il pourrait s'identifier à un film hollywoodien, j'en sais rien.
C'est ça qui est assez étonnant, parce que finalement on voit tout ce qu'il y a de proche, parce qu'il y a énormément de choses. C'est un peu nos voisins, nos cousins. Alors évidemment, il y a des conditions matérielles, une pauvreté qui est évidente. Mais finalement, en tout cas pour certains sujets, c'est les mêmes. Les gens tombent amoureux, il y a des histoires. C'est quand même très branché sur l'humain, votre documentaire.
Oui, oui, c'était vraiment un point d'ancrage de la base du film. C'est parce que c'est une manière de se positionner politiquement aussi, de manière plus intimiste, mais c'est une revendication politique forte. J'ai le sentiment, après les projections, quand on fait des débats, souvent il y a des gens qui ont cette réaction un peu plus exacerbée. La dernière fois, il y a carrément une dame qui a dit oh, « Mais ce sont des êtres humains comme nous
!» Les gens sont surpris souvent que ce ne soit pas un film militant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours militant. Et donc, à la fin des projections, les gens disent parfois « Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez juste dire que c'est des gens comme nous ?» En fait, on a le sentiment d'avoir gagné quelque chose quand même quand les gens ont cette impression. Et je pense que c'est dû pas mal à la perspective qu'on a adoptée, de mettre l'accent comme ça sur l'intimité, puis les femmes avec leur rapport aux enfants aussi. On a beaucoup de moments où les femmes s'occupent de leurs enfants. Il y a des scènes d'allaitement aussi qui sont que j'ai beaucoup aimé dans le film et qui permettent aussi cette identification et d'avoir aussi une certaine douceur humaine derrière toute la violence qu'il peut y avoir dans leurs conditions de vie.
Et puis surtout de déconstruire l'indifférence qui est reine quand on passe à côté de ces gens en France, y a quelque chose de terrible quand même dans ce fossé-là, quoi.
Et puis vous faites parler différentes générations, c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a les jeunes qui donc sont arrivés, et on sent, il y en a certains, quand ils imitent les conversations en français, qui parlent français, qu'ils ont peut-être des relations. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, les relations avec le reste de la population à Montpellier.
Eh bien, ça dépend des personnes, ça dépend des individus. Après, Veta, par exemple, la grand-mère, donc, qui est un peu dépositaire de la mémoire de la famille aussi, puisqu'elle a vécu sous Ceaușescu en Roumanie, qu'ensuite elle a amené sa famille en France. Elle parle de la générosité des Montpellierains, du fait que... Bon, parce qu'elle est très croyante aussi et qu'elle est dans un rapport à la charité, surtout.
Elle a une belle phrase dans le film qui dit c'est assez fou avec tous ces mendiants, les habitants ici devraient en avoir marre, et pourtant, malgré cela, ils donnent toujours. Ils restent généreux.
Et puis ensuite, il y a aussi des initiatives personnelles qui sont très belles, comme une femme qui est orthophoniste à la retraite, qui s'appelle Nicole, et qu'on n'a jamais réussi à avoir en fait dans le film, alors qu'on voulait vraiment, mais on n'a pas pu. Et donc cette femme, en fait, elle propose à Zina et Michela, qui sont les deux jeunes filles qui ont donc 8 et 11 ans au moment du tournage, entre midi et deux, plusieurs fois par semaine, elle leur donne des cours d'alphabétisation. Voilà,
puis on a rencontré... Alors bien sûr, il y a des choses difficiles, il y a de l'indifférence, il y a de la violence, même dans les regards de mépris dans la rue, mais on a rencontré beaucoup de gestes de solidarité. Je me souviens, un hiver, il y avait un homme qui venait livrer des palettes pour que les gens puissent se chauffer. Donc au lieu de les mettre à la décharge, il venait les livrer comme ça, à l'insu de son patron, donc il n'a pas voulu qu'on le filme justement pour ça. Mais il y a beaucoup de petits gestes qu'on a trouvé vraiment beaux et qu'on a retrouvé ensuite dans le comité de soutien contre le comité de soutien aux Roms qui s'est constitué contre leur expulsion.
Oui, oui, ça c'est sûr, c'est vraiment quelque chose d'important, ce collectif de soutien aux Roms, depuis un peu plus d'un an, en fait, depuis l'été 2010. Il est vraiment actif, il a réussi à trouver un terrain, je crois d'autres aussi, en accord avec la mairie. Enfin, c'est,
Oui, parce que là, dans le film, en fait, on sent qu'ils vivent sur un lieu qui est un lieu où il y a des immeubles qui poussent. C'est un chantier. D'ailleurs, je crois qu'ils profitent un peu de la salle de bain. Il y a un moment où on voit une petite fille qui rentre dans une salle de bain en Algéco, quoi. Mais alors là, en fait, pour vivre, les gens font la manche et font aussi la ferraille, c'est ça ?
Oui.
Et donc là, on voit ton père à un moment. Donc j'imagine qu'il y a des rapports. Ils travaillent ensemble.
Et ben en fait, et donc mon père dans le film explique comment ils se sont rencontrés, parce qu'il y avait une carcasse de bagnole qu'il voulait prendre, et puis en fait elle était à Toto, donc voilà. Et puis en fait mon père à un moment donné il les a aussi pas mal aidés, parce que les Roms avaient du mal à vendre la ferraille, donc il allait aussi les aider pour ça. Et puis
peut-être on peut juste expliquer comment ça marche, la ferraille. Ouais, c'est en fait tous les métaux ferreux ont une certaine valeur. Nous, on peut jeter les choses, on ne s'en rend pas forcément compte. Parfois, on les met au recyclage. Mais ce que font beaucoup les Roms, c'est de récupérer tout ce qui est métaux ferreux, aussi bien de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, etc. Et d'aller à la casse, où en fait, la casse les rachète pour les recycler. Mais voilà, chaque type de métal a un cours à la bourse et a une valeur. Et donc, ce que font les ferrailleurs, qu'ils soient Roms ou pas, comme le père de Naïs, c'est d'amener toute la ferraille qui peut être récupérée et avoir un peu d'argent en contrepartie.
Oui, ce qui nous intéressait, enfin moi, ce qui m'avait motivée aussi au tout début du tournage, donc, parce que c'est le fait qu'en 2008, il y avait eu donc la crise financière qui avait vraiment éclaté. Et puis, en fait, les cours des métaux avaient complètement chuté. Et donc, voilà, cette espèce de bulle financière un petit peu évanescente.
Non, c'est le contraire. C'est le cours des métaux avait augmenté, je crois.
Il avait augmenté avant 2008 et au moment de la crise, ça a chuté brutalement. On était très haut au début 2008 et ensuite ça a chuté.
On était tombé à quasiment 20 euros la tonne, alors que des fois, on peut être à 200. Enfin, ça dépend des cours. Et donc, bref, voilà, il y a une espèce de cristallisation à cet endroit-là du rapport entre des économies, des suréconomies et des sous-économies qui est très intéressante.
Mais par contre, le cours du cuivre reste très élevé, d'où toutes les tensions autour de vol de cuivre, vol de câbles, etc.
Et cet argent sert aussi, parce que ça sert pour la famille, mais ça sert aussi, j'imagine, pour aller en Roumanie. C'est aussi l'idée... On sent qu'il y a des allers-retours dans votre film, entre la France, la Roumanie.
Oui, en tout cas, on peut pas parler de toute façon au nom des différentes communautés roms, hein, mais en tout cas, cette famille, elle retourne assez régulièrement en Roumanie.
Une fois par an, à peu près.
Voilà, ouais, pour refaire les papiers, pour voir quelques membres de la famille s'ils sont restés là-bas.
Ya.
vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les oreilles loin du front et nous recevons Yasmine et Naïs qui ont réalisé un documentaire avec une famille rome de Montpellier, Tiers Paysage. Alors cette famille rome retourne, on disait avant la pause, en Roumanie régulièrement parce qu'ils viennent de Roumanie, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Et cette famille-là, en tout cas, vient d'un petit village de la région d'Alba Iulia en Transylvanie.
Donc c'est un petit village qui est un peu perdu au milieu de nulle part. Enfin, pour l'anecdote, nous, on a su qu'ils rentraient en Roumanie pour refaire leurs papiers une semaine, enfin voilà, une semaine avant, enfin à une semaine de délai, on a décidé de partir. On est parti juste avec le nom du village, une carte, et on a pris le train et on s'est retrouvé en rase campagne dans un petit village qui s'appelle Sinchel. Et donc là, on a croisé un des jeunes de la famille dans la rue. Et donc, il nous a dit, qu'est-ce que vous faites là ?
Ils ont un peu halluciné. Ouais.
Ils étaient étonnés parce qu'ils ne pensaient pas qu'on viendrait pour de vrai. On leur avait dit, mais ils ne nous croyaient pas trop. Et donc là, on a été très bien reçus. C'est Pouillot qui est dans le
d'accord.
film.
Qui voilà, est à Montpellier
qui...
aussi.
Ouais, voilà. Ah, ouais, qui était revenu donc, pour refaire sa carte d'identité. Parce que, en fait, elles ont une durée de validité assez limitée. Donc, ils doivent revenir régulièrement pour ça. Et aussi pour les événements familiaux. Ils reviennent souvent pour les baptêmes, les mariages, les enterrements. Il faut que ça se passe en Roumanie. Quoi. C'est leur lieu ouais.
En tout cas, c'était très important pour le film, effectivement, d'aller en Roumanie, de voir vraiment d'où ils venaient et de voir le paysage dans lequel aussi ils avaient vécu. Parce que c'est, d'une certaine manière, c'était des paysans, en fait. Par exemple, là-bas, ils ne s'occupaient pas forcément de la ferraille non plus.
En fait, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, d'aller en Roumanie. Déjà, on a changé la relation avec la famille. On est devenus beaucoup plus proches parce qu'on était chez eux, mais dans un lieu où ils ont leur fierté. Donc, ça a fait une plus grande proximité avec les hommes qui étaient très contents de nous accueillir en Roumanie alors qu'ils étaient un petit peu plus fuyants en France. Et aussi, ça nous a permis de comprendre leur histoire en tant que communauté, parce que on a vu donc qu'ils habitent un petit groupe de maisons qui est un peu en retrait du village et qui se situe sur le terrain de l'ancienne ferme collective. C'était un terrain qui leur avait été cédé par l'État et ils travaillaient tous à la ferme collective où il y avait notamment une grande étable et puis aussi une porcherie. Donc c'était de l'élevage assez important et les Roms étaient employés à cet endroit-là et donc ils avaient un travail sous Ceausescu. Et au moment de la chute du communisme, toutes les terres ont été privatisées, la ferme collective a fermé et donc ils ont perdu leur travail. Ils sont devenus pour certains journalier agricole, mais on gagne vraiment rien comme journalier agricole. Et assez rapidement, ils sont partis faire la manche dans différents pays d'Europe. Au début, ils allaient un peu comme journalier agricole aussi, plutôt vers la Pologne. Et puis ensuite, ils sont allés davantage vers l'Europe de l'Ouest.
Mais c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous rendre compte du contexte économique en Roumanie, au-delà du contexte économique des Roms en particulier. Dans cette campagne, en tout cas, on a été dans quelques fermes, boire des coups avec les gens, discuter un petit peu, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de Roumains qui partent travailler 6 mois en Allemagne, 3 mois en Espagne, et qui sont dans des situations de précarité assez grandes.
Voilà, la migration, elle n'est pas uniquement celle des Roms. Les Roumains aussi n'ont pas de quoi vivre à la campagne, et ils font des migrations saisonnières pour travailler dans le bâtiment en Espagne, en Italie souvent, et ils reviennent chez eux le reste du temps avec l'argent qu'ils ont pu gagner en Europe de l'Ouest.
C'est un peu un village fantôme finalement, ce petit bout de terre.
Ouais,
et à la fois ça a une vie qui est aussi forte et belle. Enfin, on s'est aussi rendu compte par exemple que les rapports entre les Roumains et la famille et les Roms étaient très cordiaux. Il y avait pas mal d'amitié qui se créait.
Alors on a vu ça dans le petit village. En fait, on a vu quand même des situations assez contrastées parce qu'on a vu ça dans le village d'où ils étaient originaires. Il y avait plutôt des bonnes relations. C'était vraiment un tout petit village. Et si les maisons étaient à part, on n'avait pas vraiment l'impression d'une forte ségrégation. Par contre, dans la ville qui est à côté, Blage, il y a un espèce. En fait, c'est une ville plus importante. Et il y a une rivière qui sépare la ville des Roumains et l'espèce de ghetto miséreux des Roms. Et on traverse la rivière par un pont complètement branlant. C'est très étrange.
Ouais. Là, c'est un vrai pont fantôme.
On ne l'a pas traversé parce qu'on avait peur de tomber dans l'eau, en fait.
Et donc, il y a des inégalités qui sont différentes en fonction du lieu, parce qu'on sent que dans les villes, les Roms sont plus stigmatisés, parce que ce qu'on dit généralement, c'est aussi que si les Roms viennent en France, c'est parce que la situation est terriblement catastrophique dans leur pays. Et donc, là, on retrouve ça dans ce village, mais c'est aussi un mode de vie, finalement, aussi... La migration.
Le nomadisme ?
Bah oui.
Oui, alors c'est vraiment, je pense qu'il faut le relativiser à la lumière de l'histoire.
Bah, c'est plus de la migration pour eux que du nomadisme. Ouais. Hein. C'est des Roms qui sont sédentaires depuis très longtemps, hein, qui sont. En fait, en Roumanie, la plupart des Roms sont sédentaires. Ouais. Ils ont été sédentarisés souvent par la force, mais il y a plusieurs siècles. Et les Roms nomades sont vraiment une petite minorité. Qui existe, hein, mais qui est vraiment une petite minorité. Et donc ceux-là, pour eux, c'est de la migration, c'est pas du nomadisme.
Oui, ça, c'est important, de la migration économique. Et par contre, il faut bien se rendre compte aussi du fait qu'en Roumanie, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Roms qui étaient amenés dans les camps de... pas d'extermination, mais... qui étaient déportés, c'était les tziganes nomades. Donc à ce moment-là, déjà avant, avec l'esclavage, il y avait eu beaucoup, beaucoup de sédentarisation, mais là, ça a été...
Et ceux qui n'étaient pas sédentarisés, qui après la Seconde Guerre mondiale avaient survécu et n'étaient pas sédentaires, ont été sédentarisés aussi de force
à l'époque du communisme.
Ouais, tout à fait.
Et parce qu'on sent qu'il y a aussi dans cette volonté de partir, de quitter le pays, il y a tout le côté Ceausescu, puisque la grand-mère explique bien que si elle est partie, c'est aussi après la chute du mur, parce qu'ils n'ont pas eu les terres ont été divisées dans le village, mais qu'eux n'ont rien reçu.
Bah oui, mais il y a pas mal de Roms qui regrettent l'époque de Ceausescu parce qu'ils étaient d'une certaine manière, c'était tellement égalitariste que ils étaient considérés comme les autres, ils avaient une couverture maladie, ils avaient un boulot, de quoi manger et ben voilà.
Oui, c'est quelque chose qui nous a frappé ça, l'idée, enfin il y a une sorte de, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de backlash à la chute du communisme contre les Roms, comme s'ils avaient été privilégiés sous le régime de Ceausescu, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, mais ils ont été un peu moins, enfin, d'après ce qu'on a compris, ils ont été un peu moins stigmatisés à cette époque qu'aux autres moments. Et il y a eu une espèce de vengeance des gens contre eux. Et les années 90 ont été très, très dures en Roumanie pour les Roms. Mais... par rapport à la question précédente sur la situation terrible et catastrophique en Roumanie, elle est catastrophique et terrible sur le plan économique, mais sur le plan du racisme et de la stigmatisation des Roms, je pense qu'il faut être un peu plus nuancé quand même, parce que déjà la stigmatisation des Roms, elle est effroyable en France, et la Roumanie a fait... La Roumanie ne peut pas être dédouanée de tout le racisme qui existe, mais il y a des initiatives qu'on ne peut pas non plus ignorer pour essayer de favoriser la scolarisation des enfants, faire des quotas à l'université, des quotas aussi de représentation politique des Roms. Mmh. Donc il y a des efforts qui sont faits, qui existent, et je pense que ce n'est pas très honnête de dire qu'il n'y en a pas du tout, même si la situation est loin d'être même ne serait-ce que vivable pour les Roms en Roumanie.
Oh,
Alors, on est toujours dans les oreilles loin du front avec Yasmine et Naïs pour parler de leur documentaire Tiers-Paysage. Et on va écouter un extrait du documentaire, donc sur la question des expulsions en 2010, puisqu'il y a un moment dans le documentaire où, en fait, vous filmez dans la caravane. Et donc, en fait, on voit la famille regarder les informations à la télé. Et les informations, c'est l'expulsion d'un campement rom à Montreuil.
La révolte des Roms de Montreuil, ces mères courages ont protesté contre leur expulsion d'un squat et l'emprisonnement de leur mari. Hier, police est passée à l'action, mettant les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, en les menaçant de leur enlever leurs petits si elles protestaient. Ces hommes ont été interpellés, ils ont été relâchés avec obligation de quitter le territoire. Les multiples opérations anti-Roms sont violemment condamnées par la gauche, mais aussi à droite. Jean-Pierre Grand, député UMP Villepiniste, parle de pratiques ignobles et de rafles.
Les témoignages sont expulsés, hein, et la sélection d'un côté des hommes, ensuite les femmes et les enfants, c'est sûr que ça rafle. Hein. En tous les cas, c'est l'image des rafles qu'a connu notre pays, ça c'est pas acceptable.
La politique répressive du gouvernement envers les Roms met les municipalités au pied du mur, car les expulsions ne font que déplacer le problème et n'apportent aucune solution.
Les services de la préfecture, pour faire du chiffre, parce que on a dit on va expulser, expulse, mais pas seulement à Montreuil, à Choisy-le-Roi, partout, et laisse à chaque fois les municipalités se débrouiller pour trouver des solutions derrière.
Pour le Parti Socialiste, cette chasse aux Roms d'extrême droite, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, persiste et signe. Le fidèle de Nicolas Sarkozy veut démanteler la moitié des 300 camps illégaux d'ici 3 mois et renvoyer le maximum de Roumains et de Bulgares dans leur pays.
Alors, ce qui est assez frappant, en fait, quand on regarde le documentaire, c'est qu'on ne voit pas vraiment la famille réagir. Quand elle voit les informations à la télévision, mais
Elle réagit d'une façon, elle est bouche bée.
Oui, mais nous on les avait trouvés assez blasés en fait, oui, parce que ça. C'était pas la première fois surtout.
Ça fait aussi partie du quotidien en fait, la menace d'expulsion. Je pense qu'elle était à peu près, c'était comme une vague qui montait tous les 3 mois, puis qu'il y avait des moments de creux pour peut-être 6. Et puis bon, par contre voilà, en 2010, sur la fin du tournage, vraiment. Ce qui était avant lié uniquement au chantier, à une problématique finalement contextualisée autour local. De eux, leur camp et local, est devenu national et voilà, on a pu assister, comme tout le monde le sait, donc à l'expulsion des Roms massivement de France à partir de ce moment-là. Donc là, oui, il y a une prise de conscience de leur part. Mais...
C'est-à-dire qu'ils étaient choqués du caractère systématique, voilà. En fait, et officiel de... d'une politique agressive à leur égard, alors que par rapport à la menace d'expulsion elle-même, ils étaient un peu blasés parce qu'ils avaient déjà été expulsés d'un autre terrain 2 ou 3 ans auparavant. Il y avait eu des moments d'expulsion comme ça où ils étaient revenus après, mais c'était des événements locaux décidés par la préfecture, pas par le président de la République.
Ouais, là où de ça, elle était vexée. Hein. Enfin, vraiment, je pense qu'il y en a eu beaucoup, quoi, qui étaient vraiment vexés aussi personnellement de se sentir visés comme ça de par son appartenance, je sais pas comment dire, ethnique. Enfin, c'est oui, il y avait vraiment une colère.
Parce que là, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils sont expulsés, mais la Roumanie, c'est bien en Europe.
Oui.
Oui, alors, enfin, c'est paradoxal. C'est, en fait, c'est facile pour le ministère de l'Intérieur, parce que ça permet d'expulser des gens, donc d'avoir des chiffres d'expulsion. Des gens qui, souvent, résistent assez peu quand on veut les faire monter dans l'avion, parce qu'ils peuvent revenir. Parce que, comme c'est l'Europe, il n'y a pas de frontières. Enfin... Il n'y a pas d'obstacle au retour. Donc les Roms qui sont expulsés, ils peuvent revenir aussitôt, en fait. Il n'y a rien qui les empêche vraiment de revenir. Alors, l'intérêt de les expulser, c'est uniquement de faire du chiffre, ce qui coûte très cher aux contribuables français. On dépense une fortune juste pour persécuter ces gens et les mettre de force dans les avions et mettre des statistiques pour les taux d'expulsion dans chaque préfecture. Alors que finalement, leur permettre l'accès aux allocations familiales, ce qui n'est pas le cas actuellement, ça permettrait peut-être d'avoir une politique un peu plus durable à leur égard, de scolariser les enfants, qu'ils aient un boulot ensuite, qu'ils fassent pas la manche, etc. Ouais,
parce que ce qu'il faut bien savoir aussi, on dit ils sont en Europe, mais en fait, pour les Roumains et les Bulgares, il y a une législation qui est particulière en France, liée au travail. Donc l'accès à l'emploi pour les citoyens roumains et bulgares est conditionné par une circulaire, ou je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas un texte particulier. Donc en gros, l'employeur doit verser 900 euros par employé à l'ANAEM, qui est l'organisme d'aide au retour. Je sais pas exactement, je suis pas légiste non plus, mais et puis donc il faut avoir une carte de séjour permanent, mais pour avoir une carte de séjour permanent, faut avoir un contrat de travail. Enfin, c'est beaucoup de contresens qui sont des mesures complètement rédhibitoires.
Les Roms font partie de, enfin la Roumanie fait partie de l'Union européenne, parce que il y a entre guillemets pour le gouvernement le problème des Roms bulgares et roumains. Du coup, ils ont décidé des clauses transitoires pour éviter un afflux massif de migrants. Et ces clauses transitoires limitent l'accès au travail et limitent l'accès aux prestations sociales et permettent aussi à la préfecture d'organiser des expulsions, ouais. Même si, du fait que c'est l'Europe, rien n'empêche ces personnes de revenir en France. Donc c'est vraiment une politique du chiffre. Qui est assez économiquement même et assez absurde pour tout le monde. Ouais.
Et ceci étant, j'ai rencontré une association qui fait travailler des Roms, ce qui est vraiment pas courant du tout. Et donc ça se passe à Pantin, et c'est une association qui s'appelle Coup de Main, et qui a monté une espèce d'Emmaüs, en fait. Je pense qu'ils sont parrainés par Emmaüs ou quelque chose comme ça. Et donc si ça intéresse les gens d'aller découvrir cet endroit-là, c'est vraiment sympa. Ça s'appelle Coup de Main, et on peut aller acheter des meubles, des livres, des fringues, tout ce qu'on veut. Et eux, ils versent les 900 euros par employé, ils font tout comme il faut, mais ils le font. Voilà, comme quoi il y a des gens qui y croient quand même.
On pourra mettre cette information sur le site des Oreilles Loin du Front. Merci.
Effectivement. Et alors, quand vous suivez aussi des jeunes, des jeunes enfants. Et ces gamines, est-ce qu'elles veulent rester ici? Est-ce qu'elles veulent partir là-bas? On sent qu'il y a une espèce de vie entre deux qui est...
Il y a une grande ambiguïté hein, dans leur... Bon, c'est ce qu'on a essayé de le restituer aussi dans le documentaire. C'est des enfants encore, donc elles sont très ambiguës par rapport à ça. Elles se sentent pas françaises. Déjà, elles parlent français, mais pas très bien. Elles n'ont pas été scolarisées en France. En même temps, elles voient pas vraiment comment la vie est possible en Roumanie. Du coup, elles sont dans cette ambivalence permanente qui rend les choses très difficiles pour elles aussi.
Et effectivement, là, on sent qu'il y a quand même un... On ne sait pas exactement s'ils veulent rester, bouger, s'ils veulent aller à l'école, parce qu'on sent qu'il y a un moment, il y a une jeune fille qui raconte que l'école, c'est vraiment pas son truc. Est-ce qu'il y a des gens sur place qui... Tu as parlé tout à l'heure d'une orthophoniste, mais est-ce qu'il y a d'autres associations? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que les parents...
Oui, dans le collectif de soutien aux Roms, en tout cas, il y a une femme qui s'appelle Clarisse Decroix qui aide beaucoup à la scolarisation.
Mais elle, c'est son boulot. Enfin, ouais. Il y a aussi des gens dans les institutions hein, qui sont très favorables aux Roms. Ça, c'est important de souligner. Il y a des gens qui se prennent pour la police en permanence, mais il y a des gens aussi qui veulent les aider. Et cette femme, Clarisse, elle travaille au CASNAV, qui est donc une structure de l'académie qui vise à scolariser, à permettre la scolarisation des ouais. enfants étrangers. Donc elle essaye de mettre en place des des formes d'accompagnement à la scolarisation, permettre aux enfants d'aller dans des écoles où ils ont des cours de français langue étrangère pour apprendre le français. Elle s'investit aussi très personnellement en les accompagnant à l'école pour au moins les rassurer au début. Donc elle va très tôt le matin, elle les prend par la main pour les emmener à l'école. Voilà, c'est une démarche d'accompagnement aussi qui est nécessaire pour rassurer les Roms par rapport à ces institutions qui sont parfois qui leur paraissent parfois un peu difficiles d'accès quand même.
Et encore une fois, dans notre film, donc les deux jeunes filles ne vont pas beaucoup à l'école. Elles sont un petit peu comme ça tiraillées entre un désir d'y aller et puis une peur, un refus. Enfin, l'ambiguïté de l'enfance dont parlait Yasmine tout à l'heure. Mais par contre, dans le camp, il y a quand même pas mal d'enfants roms qui sont scolarisés. Encore une fois, le film n'est pas du tout emblématique d'une communauté ou de quoi que ce soit. C'est vraiment très local et particulier et individuel, en fait.
Et puis c'est le parcours de ces trois femmes où finalement, ça pourrait être les relations entre une grand-mère, une mère et sa fille. Hein. C'est un peu comme partout ailleurs.
Thank you.
Alors Yasmine et Naïs, donc vous avez réalisé Tiers Paysage et c'était il y a quand même un peu plus d'un an. Elle en est où la famille maintenant? La famille avec laquelle vous avez travaillé?
Alors maintenant la famille a été relogée en fait grâce au soutien du collectif Rome.
Et donc elle a été expulsée
d'abord.
Voilà,
elle a été expulsée au 31 décembre.
Enfin, c'était une expulsion négociée avec la mairie, c'est-à-dire que comme c'était un site destiné à la construction, ils devaient en partir et donc grâce au collectif, la mairie a donné un autre terrain. C'était pas une expulsion avec manu militari.
Non, ouais.
Et donc ils sont sur un autre terrain qui a été viabilisé par la mairie au sens où il y a l'eau courante, mais il y a une fontaine d'eau, il y a l'électricité, il y a des toilettes et donc grâce au collectif ils ont pu aussi acheter des caravanes qui sont pas destinées à bouger hein, mais c'est simplement un peu mieux que les cabanes qui se construisaient et donc ils vivent avec, je ne sais pas combien de personnes, il y a peut-être 200 personnes au total sur ce site. Et voilà, donc ils vivent là, mais ça reste quand même pas mal du jour le jour. Parce que
c'est toujours le même quotidien, hein, finalement. Parce qu'ils sont plus loin du centre-ville.
Ils sont un peu plus loin du centre-ville, mais ils n'ont toujours pas des activités économiques rentables qui leur permettent d'avoir une vie stable, en fait. Il y a quand même, grâce à l'intervention du collectif, il y a davantage d'enfants qui sont scolarisés. Ça a permis quand même d'avancer sur ce plan-là. Et puis la famille avec laquelle on a travaillé, ben, ils connaissent des hauts, des bas, comme toutes les familles. Il y a des maladies, hein, malheureusement. Voilà, il y a aussi des choses qui se passent bien. On est très contents de les revoir. On est allé plusieurs fois à Montpellier à l'occasion de projections notamment. Donc à chaque fois, on les voit. Parfois, ils viennent en projection. Et donc, ça nous permet aussi de maintenir un lien.
Oui, puis même téléphonique. On s'appelle au moins 3 fois, 4 fois par mois pour prendre des nouvelles. On garde un lien de...
Ouais. On s'appelle pour Noël, etc.
Et est-ce que ce film a été vu dans la région de Montpellier? Est-ce que ça a été vu par la famille Rome que vous montrez dans le film? Et par Montpellier, c'est aussi quand même un endroit où il y a énormément de gitans. C'est aussi un endroit où il y a énormément de relations entre toutes ces populations. Quelles ont été les réactions?
Alors pour les réactions suite à diffusion en salle... ça s'est toujours plutôt bien passé. Il y a notamment la dernière fois pendant le cinéma, le Festival international du cinéma méditerranéen, des personnes qui gèrent une école gitane, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour montrer le film, pour justement dans l'école gitane, pour favoriser les liens comme ça entre les Roms et les gitans. Et sachant que nous, on s'est bien rendu compte qu'il y avait déjà des liens qui se créaient, dans le sens où Utsa, donc la maman. Dans le film, à une très bonne amie gitane avec qui on est allé au Sainte-Marie de la Mer, avec donc Utsa, Zina, Michela.
Le Sainte-Marie de la Mer, c'est en fait un pèlerinage qui a lieu au moment du week-end de l'Ascension, dans un ou la Pentecôte, je ne sais plus très bien. Enfin, bref, à ce moment-là, dans un petit village de Camargue où il y a voilà cette dévotion pour deux vierges qui sont donc les Saintes Marie, deux statues qui sont les Saintes Marie de la Mer. C'est un pèlerinage gitan.
En tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait. Bon, enfin, de toute façon, c'est toujours à l'échelle des individus. Là, en tout cas, il y avait une grande amitié entre ces deux femmes. Et du coup, beaucoup de discussions sur leur culture respective et beaucoup de curiosité et l'envie justement d'aller découvrir ce pèlerinage. Zina, elle était à fond dans le pèlerinage. Ça lui a énormément plu. Le flamenco, pareil. Elle est arrivée avec une grande robe. Enfin, c'était super.
Et alors, votre film, est-ce que nous, on peut le voir ici à Paris?
Donc on pourra le voir à Saint-Ouen-l'Aumône le 24 janvier à 20h30 au cinéma Utopia. Par la suite, on a des pistes de programmation, mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus.
On a donc quand même une projection prévue en mars à l'Espace Saint-Michel, le 15 mars. Et surtout, une date plus proche, c'est on est dans le festival Point Doc, qui est un festival sur Internet, et donc qui sera visible tout prochainement sur Internet, et on sera en chat avec le public le 19 janvier à 20h ou 20h30, je ne sais plus
ou
exactement.
16h30 peut-être.
Je sais plus l'heure, regardez le programme. Donc
on mettra ça sur notre site internet.
c'est drôle. En tout cas, je crois.
On mettra ça sur notre site internet. En tout cas, merci beaucoup. Donc, votre film, c'est Tiers Paysages. Donc, des paysages tiers, comme on disait au début d'émission. Donc, c'est plutôt tiers état que tiers monde. Et donc, nous avions en plateau Yasmine et Naïs. Merci beaucoup. Et bah, on espère vous revoir pour d'autres projets, parce que j'espère que vous ferez d'autres films. En tout cas, on vous conseille d'aller voir ce film, que ce soit au cinéma ou sur Internet. Merci.
Tristinta.